Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our £14 billion lending fund to help small businesses. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. All lending subject to status.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Bretagne, avec Daniel Riolo, le foot européen à venir, la finale de la Copa Libertadores, Julien Cazard bien sûr, et Thierry Gomez, toujours avec nous, président du Mans, qui est là ce soir avec de nombreuses propositions. Alors, on a parlé de cette la refonte du championnat amateur, avec une journée de fin de saison.
Là, c'était vraiment l'apéritif, hein. Moi j'attends vraiment le plat.
Non, mais moi j'aime bien, ça me plaît.
J'ai dit que c'était pas mal. Ouais.
Alors, ensuite, Thierry Gomez, passons à l'étage supérieur.
Un étage supérieur, le national. Comme chacun sait,
voilà, ça va être très long là, si on en est qu'au national.
Non. Nous on y était l'an dernier, donc une fois ça peut aller vite. Donc le national, c'est comme chacun sait le Canada Dry du football professionnel. C'est-à-dire que ça a l'odeur, la couleur, mais en réalité,
c'est les mecs qui n'ont pas des contrats pro mais qui vivent du foot.
Voilà. Et je pense qu'il faut à un moment donné, moi j'aime bien de la cohérence et arrêter l'hypocrisie. Ces clubs, ces présidents, pareil, méritent, je pense, une reconnaissance. Dans la plupart des grands championnats, il y a une Ligue 3 professionnelle. Et donc je pense que la France, hein, on a du mal à avoir des fois deux clubs à Paris, alors que dans d'autres capitales il y en a 5-6. Je pense là encore que la France,
quand vous allez prendre l'Ozaïou,
mériterait. Oh, bah je vais vous l'expliquer. La France mériterait d'avoir une Ligue 3 professionnelle. Aujourd'hui, le national, grosso modo, touche 300 000 euros. Je pense que pour aider à ces clubs de passer un cap, il faudrait minimum aller arriver à 1,5 million, c'est-à-dire retrouver 1,2 million.
Donc c'est là que les nouveaux droits télé interviennent.
Sur 20 clubs, ça fait environ 24 millions.
Ouais, j'en connais des présidents qui vont vouloir vous filer stose.
Je sais bien, mais il y en a qui doivent crier aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de faire un débat et d'ouvrir les choses et d'échanger.
24 millions en tout.
24 millions.
Ça va sur
un milliard. Mais, sur un milliard.
Personne voudra.
Je vais vous expliquer. On va aller chercher en plus ça parce que je pense qu'on va les prendre à personne. Donc l'idée, c'est si on fait cette Ligue 3 professionnelle, déjà, on va structurer de manière beaucoup plus forte les clubs de national qui sont aujourd'hui donc de L3. On va créer des emplois, hein, des joueurs professionnels, des entraîneurs, donc voilà.
L'administratif,
ouais, tout un staff. Ouais.
Et je pense aujourd'hui, avec ces 1,5 million de droits, n'importe quel club de Ligue 3 sera à 4-5 millions d'euros minimum. Puis on aura 5
ouais,
à 8.
Budget, ouais.
Hein, ce qui veut dire que là, on peut commencer à travailler aussi à avoir des meilleurs joueurs et donc à rendre aussi ce championnat beaucoup plus attractif.
Ouais.
Il est attractif puisque je pense que les audiences qui sont à la télé sont pas si mauvaises que ça. Je pense qu'elles en ont surpris plus d'un. Donc ça, c'est la première chose. On rend le championnat L3 beaucoup plus
attractif. Vous êtes renseigné sur le national, si ça, ça faisait un peu de monde ou pas?
Nous, bon, on a été diffusé quand même pas mal de fois parce qu'il y avait du monde, hein, puisqu'on a fait près de 7000 spectateurs de moyenne. Donc il y avait.
Et puis vous avez un statistique.
Voilà. Alors attends. Le national, donc vous demandez dans l'enveloppe globale qui est donnée à ce qui est un peu plus de blé pour le national. Mais est-ce que le national peut se vendre en lui-même comme championnat sur une chaîne de télé, sur un diffuseur qui vous donnerait un peu plus de sous, par exemple?
Mais aujourd'hui, il se vend déjà.
Oui, il se vend une bouchée de pain pour l'instant.
D'accord. Mais si on le rend déjà pour le vendre plus cher,
ouais,
c'est le même souci que la Coupe de la Ligue, on en parlait tout à l'heure. Si on le valorise, et là aussi pareil, on le market autrement, déjà Ligue 3 professionnelle, je pense que c'est plus vendeur.
Ouais, déjà, ça, oui, bien sûr.
Voilà. Et avec des moyens supplémentaires, les clubs mieux structurés,
pas mal. Jouer.
Deuxièmement,
c'est
je pense
un sans
aussi,
pour l'instant.
Et c'est là que bon, Jérôme, c'est un ex-Troyen.
Hein. Pour ça aussi.
Oui, vous avez été à 3 avant, faut le rappeler.
Tout à fait. Et donc,
grâce à moi, hein.
Un peu. Ouais,
c'est oui, si j'avais pas mis le club là-haut.
Bon, avec plaisir.
Ensuite. Et c'est là que j'ai envie d'échanger aussi avec mes collègues de Ligue 2, parce que pour moi, créer une Ligue 3 professionnelle, ça valorise aussi la Ligue 2 immédiatement. Parce que déjà, y a une Ligue 3 professionnelle en dessous de la Ligue 2. Deuxièmement,
c'est-à-dire que quand tu descends de Ligue 3, bah, ton club n'est pas mort.
C'est un vrai problème aujourd'hui quand les clubs de Ligue 2 descendent national, parce que ça remet en cause le statut professionnel, ça remet en cause la formation.
Le centre de formation, exactement.
Et troisièmement, quand vous redescendez en national, vous redevenez dans un championnat amateur, vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des médias, c'est très compliqué. Alors que là, même une descente, vous restez dans le giron professionnel.
Bien sûr.
Donc je pense qu'il y aurait tout intérêt à, effectivement, à réfléchir et à aller au bout des choses et de créer ces Ligue 3 professionnelles, parce que franchement, ces clubs et les villes le méritent. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet, c'est sur le national.
Là, du coup, vous arrivez à une Coupe de la Ligue plus intéressante, avec que des clubs pro.
Mais là, vous n'avez pas distingué l'oseille, parce que d'abord, les amateurs, l'argent, c'est la FFF qui gère.
Tout à
le
fait.
Football pro, c'est la Ligue.
Tout à fait.
L'argent qu'elle récupère des droits télé.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, le national, il y a à la fois des clubs pro.
Comment on va faire ça? Parce qu'aujourd'hui, la 3F, elle donne quoi? 16 millions aux 15 000 clubs pro.
300 000 euros. Oui, enfin. Alors, vous parlez quoi? La FFF, elle donne.
Aux clubs amateurs, elle donne de l'argent.
Tout à fait. Elle donne 300 000 euros en moyenne par club qui sont en national aujourd'hui.
16 millions pour les 15 000 à peu près. Ça fait ça, non?
Donc, l'idée, c'est de trouver 1,2 million supplémentaires pour être à 1,5 million. Voilà, d'accord. Donc ça fait une vingtaine de millions d'euros, 24 millions d'euros. Ça, c'est le deuxième point, d'accord. Parce que tout ça, pour moi, doit s'enchaîner et pour y trouver de la cohérence. Si on les prend un par un, ça n'a plus son sens.
Ouais.
Troisièmement, j'arrive à la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, quand j'étais déjà à Troyes il y a 15 ans, il y avait la moitié des présidents qui critiquaient cette coupe. Donc, c'est compliqué de vendre un produit quand on dit que c'est la coupe à Toto.
Ouais, tout à fait.
Voilà. C'était aussi des fois relayé par certains.
Oui, c'est qu'elle n'était pas complètement
journaliste.
Non, mais c'est un principe du football français.
Absolument, nous, on était la ligue où tout le monde jouait pas le jeu.
C'est vrai.
Mais ce qui était très drôle.
Alors quand on la gagne, tout le monde est dans la rue, vous avez remarqué.
Voilà. C'est ce qui était très drôle.
Bah, le premier avec Strasbourg.
Les présidents qui critiquaient la Coupe de la Ligue en 8e de finale, en 6e de finale, quand ils arrivaient en finale, c'est extraordinaire.
Ils sont bien contents.
Et c'est ça parce que il faut parler. Aujourd'hui, un club de football, c'est une entreprise de spectacle. Donc la dimension économique est très importante. Il faut pas oublier ça.
Mais souvent, la Coupe de la Ligue, les stades étaient à moitié vides, les équipes.
Oui, mais au début,
parce que d'une part, on critiquait, d'accord,
oui, exactement.
Donc, évidemment. Et deuxièmement, la formule, je pense aussi qu'il y avait un souci, c'est-à-dire que on démarre cette Coupe de la Ligue avec 3-4 clubs de national.
Ouais, exactement, les premières affiches,
les premiers tours, on les comprend pas.
Ouais.
D'accord.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais, mais on a fait ça pour alléger le calendrier des gros.
Tout à fait. Et ça devient intéressant. Voilà, à partir de 8e des quarts de finale. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les gens qui critiquaient la Coupe de la Ligue, quand ils arrivaient en finale, étaient heureux parce que.
Mais même les joueurs, je te rassure.
Voilà, je suis le premier, moi, à dire que je suis un investisseur, donc, et qu'un club de football, c'est une entreprise. D'accord? Donc, la notion d'argent, j'ai investi mon argent, donc, je gère aussi bien mon club. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on parle football et image. Et moi, je rêve et je le dis à mes joueurs, à mon entraîneur régulièrement, mon rêve, c'est un jour d'aller avec le Mans FC, vivre une finale. Parce que vivre une finale au Stade de France, vous emmenez vos supporters, vous emmenez vos partenaires, vous enlevez vos collègues.
Avec la Coupe de la Ligue, tu as deux chances.
Tu marques l'histoire du club, c'est sûr.
Et c'est exceptionnel.
Bien sûr.
On est là aussi pour ça, parce qu'on est des passionnés.
Ben oui.
Voilà. Si un jour je peux vivre une finale, si je peux faire vivre une finale à toute une région,
exactement.
Je vois là le match.
Excusez-moi, mais le fait que la Ligue soit tombée.
Attends.
Que la Ligue. Mais déjà,
on
moi j'avais des questions. Déjà, il y avait l'élection, c'est comment on va réussir à convaincre les clubs pro d'aller vous filer une plus grosse part du gâteau en national. Il va falloir les convaincre. Alors que chacun ait plus d'oseille en haut et ils vont avoir du mal à vous les donner en bas. Donc ça, c'est une question. Mmh. Ça, il va falloir quand même répondre à ça. Ensuite, je me souviens plus sur la Coupe de la Ligue.
C'est la suite logique. La Coupe de la Ligue,
concrètement, vous.
Alors, la Coupe de la Ligue, on
peut la sauver, là.
Oui, voilà, je dis, si elle est en train de disparaître, c'est que les télés n'en ont plus voulu.
Tout à fait.
Oui, mais parce que le produit n'est pas vendeur.
Aujourd'hui. Attends, excuse-moi, le foot en clair.
Non, mais c'est
quoi
pas
qu'il
vrai,
en soit, ça fait toujours des audiences correctes. Même sur un match pourri, tu fais plus que le match sur Canal.
Bah oui.
Même quand c'est, j'en sais rien.
France
Moldavie, c'est l'équipe de France. Moi, je te parle de, à Montpellier-Nîmes en Coupe de la Ligue.
C'est un derby, là, encore. Bon. Non, mais attends, ton argument des télés, il n'est pas bon, Daniel.
C'est la télé qui donne nos ailes.
Oui, mais je vais t'expliquer un truc. La télé n'a pas répondu à l'appel d'offres parce que les chaînes estimaient que c'était trop cher.
Mais oui.
Mais derrière, la Ligue n'a pas fait de deuxième tour en disant, allons-y de gré à gré. Voyons ce que vous voulez donner. Ils ont bouclé. C'est une erreur. T'aurais dû continuer à faire de gré à gré.
C'est une bouchée de pain. On n'aurait rien versé au club et les clubs ont dit, on va pas se casser le cul pour rien.
Non, mais
c'est ça, surtout.
On n'a jamais eu un sponsor aussi fort privé au niveau de la Coupe de la Ligue aujourd'hui.
Oui, BKT, là, les groupes 2.
Donc, c'est aussi paradoxal. C'est-à-dire qu'au niveau des partenaires privés, on sait que c'est compliqué en France. On n'a jamais aussi fort en Coupe de la Ligue. Et on a des problèmes avec les médias. Mais pour moi, c'est effectivement un problème à la fois de communication. Il faut arrêter de dire que c'est une coupe qui sert à rien. Et deuxièmement, c'est un problème de formule. Donc, la formule, aujourd'hui, pour moi, ce serait quoi demain? Toujours dans l'idée, on est maintenant avec 3 ligues professionnelles. D'accord? Je vous explique comme ça. On arrive grosso modo à 58 clubs. 58 clubs, on enlève comme aujourd'hui les 6 premiers clubs. D'accord? Qui font Coupe d'Europe, etc. Donc, on arrive à 52 clubs. On fait un premier tour avec 26 clubs. Mais tout de suite, qui concerne les clubs de Ligue 3, les clubs de Ligue 2, les clubs de Ligue 1. Et je retiens, parce que je trouve que c'est intéressant et intelligent. Nous, on l'a vu parce que, en national, Le Mans-Laval, 20 000 personnes. D'accord? Ouais. Et je retiens l'idée de Philippe Doucet. Pourquoi ce premier tour, on le régionalise pas? Parce que, imaginez une Coupe de la Ligue avec au premier tour un Le Mans-Angers,
un Lille-Lens,
un Toulon-Marseille,
un Toulon,
un Dunkerque-Lens. Je pense que
ça attire
un autre visage.
Ouais, mais vous allez que
les télés seraient beaucoup plus intéressants.
Voilà une bonne idée de Philippe Doucet.
Non, mais il y a un autre problème à cette Coupe de la Ligue. C'était évoqué tout à l'heure un peu par Willy. Il avait raison.
La palette, mais non, en fait,
sur la Ligue 2, et sur le national, s'ils se mettent dans ce grand ensemble que serait la Coupe de la Ligue, comment dire, vous allez avoir 80% des entraîneurs qui pressaient par le résultat du championnat, par la trouille de dégringoler parce que les niveaux sont trop homogènes, qui ne joueront pas les coupes.
Et qui n'auront pas les... Attends, laissez-moi terminer. L'esprit, Daniel.
Non mais ça, c'est ce qu'il y a de plus dur et ça fait 40 ans qu'on essaye en France et qu'on n'y arrive pas. Et nos principaux problèmes en France sont des barrages culturels.
Ouais, vous avez du pouvoir.
Des barrages culturels, c'est ça qui est très compliqué. Aujourd'hui, vous prenez les clubs de Ligue 2, 80%, même la Coupe de France, ils la zappent. La Coupe de la Ligue, on n'en parle pas parce que de toute façon, ils disent ça sert à rien, où ça va nous emmener. La préoccupation, le championnat, la pression du résultat, la peur de se retrouver dans le bas, de descendre, de machin, on assure l'essentiel. Les coupes, on s'en fout. Il n'y a que très peu d'équipes qui sont concernées pour ça. Si demain, dans ce grand ensemble, vous recréez la Coupe de la Ligue, donc vous mettez les 3 divisions, 50 matchs, ça va rajouter des matchs.
Non, Daniel, on va faire moins de matchs.
Bon, ouais, peut-être même moins de matchs.
Déjà,
quoi qu'il en soit, le blocage.
Ouais. On libère une date déjà.
Avec Monsieur Gomez, le blocage culturel consistant à avoir un calendrier plus chargé avec des entraîneurs et une culture en France qui dit qu'on ne peut pas jouer 2 matchs par semaine fera que le spectacle sera dégradé, que les gens ne viendront pas au stade.
Mais là, Daniel, dire que déjà, tu retires une date.
Tu as sous les yeux un président qui, justement, a un état d'esprit différent et qui expliquera à son coach.
Il va changer comment l'état d'esprit des
Il va expliquer à son coach. Moi, je veux qu'on la joue cette Coupe du Coupe.
Non, besoin d'expliquer à mon coach, on est en phase, nous on la joue la coupe.
Mais
on joue
les trois. Non, mais surtout président, pour répondre à Daniel, là, je te rejoins pas. Tous les présidents ne sont pas dans ce sens-là, que ça soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, en disant.
C'est une blague,
déjà,
Philippe qui sont à la 14e place du classement,
la Coupe de France, c'est pas vrai. La Coupe de France, c'est pas vrai. Mais non, mais.
La Coupe de France, 80% des Ligue 2, ils la jouent pas.
Mais écoute, mais tu dis des conneries. Et moi, j'ai joué en Ligue 2. J'ai joué dans des clubs qui n'avaient pas forcément les moyens de jouer toutes les compétitions. Et je peux te dire que la Coupe de France, elle n'était pas zappée. Comme ça. Et que quand tu joues des équipes, quand tu es en Ligue 1 et que tu joues des équipes de Ligue 2, je peux te dire que c'est un vrai traquenard.
Est-ce qu'on est au bout de la proposition?
Il y a des clubs qui zappent même l'Europa League, mais ils vont pas zapper la Coupe de France.
Les gars, s'il vous plaît, le temps passe et il nous reste un quart d'heure avec Thierry Lopez. Donc, il faut que. Thierry Gomez, excusez-moi. Qu'on avait à Lopez ici. Alors la suite de vos propositions.
Oui. Donc l'idée, recréer une formule. Ensuite, à partir de, à partir de ce premier tour qu'on régionalise, ensuite on intègre. Donc on a 26 gagnants. On intègre les six autres équipes. Ça fait 32. On attaque au 16e. 16e,
et on y va.
Quart, demi, on y va. D'accord. Et on gagne déjà une date par rapport au tour de la Coupe de la Ligue aujourd'hui. Ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, pour aller vraiment au fond du problème, mais c'est aussi la base. C'est-à-dire que la base de ma réflexion aujourd'hui, quand je parle comme ça, pour moi, je suis pas président du Mans, je suis d'abord un acteur du foot. Et qui pense foot globalement, et qui pense que si on fait grandir le foot de manière globale, à l'arrivée, on fera grandir le Mans FC. Et un sujet qui était intéressant, j'étais il y a quelques semaines à Londres, où il y avait tous les clubs européens qui étaient réunis. Et ce qui était très intéressant de manière générale, c'est-à-dire que tous les présidents, tous les entraîneurs, tous les gens qui étaient là à cette réunion, et les clubs français, disaient, en Coupe d'Europe, il y a un danger, puisque vous savez, il y a eu un projet de sorte de ligue fermée, Coupe d'Europe, etc. Dire, pour garantir l'attractivité d'une compétition, il faut un équilibre des droits télé et enfin des droits financiers. D'accord, c'est le principe de base. Et ce qui fait aussi, par exemple, de la réussite d'un club du championnat allemand, où entre le premier et le dernier, il y a vraiment un équilibre dans les droits financiers, ce qui fait un championnat.
Là, vous allez proposer une redistribution.
Donc, l'idée, c'est effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait des critères, mais on est, il y a vraiment une réflexion, et aujourd'hui, par exemple, la base entre...
Déjà, qui chiale parce qu'ils n'ont pas assez d'argent.
Non, je vous assure que ça,
par contre... Si vous leur donnez moins de blé, alors là, déjà,
Non, justement, c'est pas ça.
Non, et en revanche, j'y suis pour rien, parce qu'il y a vraiment une avancée importante, et que j'y étais pas, donc c'est clair, avec tous les présidents, pour qu'il y ait effectivement un équilibre dans la nouvelle répartition des droits télé, et notamment la Ligue 1, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il n'y ait plus des écarts de 5-6, mais qu'il y ait des écarts beaucoup
plus. Donc là,
plus
là vous revoyez les critères de...
Je pense qu'effectivement, entre National, qui devrait avoir effectivement 1,5 million, la Ligue 2, je pense que... Aujourd'hui, si la Ligue 1 avait les nouveaux télé, le dernier de Ligue 1, aujourd'hui, il touche environ 19 millions d'euros. Les hypothèses qui existent, c'est-à-dire que demain, un club de Ligue 1 va toucher minimum 32-33 millions. D'accord ? Si pour moi, un club va toucher 32-33 millions, il faut que le club de Ligue 2 soit à 7-8 millions d'euros. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut aller chercher en gros 3,5 millions
pour la Ligue 2, pour la Ligue 2.
D'accord ? Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, entre le National et la Ligue 2, il faut aller chercher 94 millions d'euros. D'accord. Donc maintenant, la question, c'est comment on va chercher cet argent. Alors, effectivement, il y a les nouveaux droits télé, d'accord. Voilà. Mais au-delà de ça, moi, je dis en tant que, et là, je reprends ma casquette de président de Ligue 2 Le Mans, qui est considéré comme un club moyen, qui doit être un bon club de Ligue 2. Et puis si un jour ça sourit bien, va monter en Ligue 1. Et puis voilà, peut rester quelques années, continuer à construire. Voilà. Mais c'est pas forcément ni Lyon, je serai jamais Lyon, Marseille, etc. Ouais. D'accord. Et donc, je me dis, si on arrive à faire une vraie réforme du football français, en valorisant le championnat de France amateur, qui va coûter quasiment zéro, en revalorisant la Ligue 3 professionnelle, qui va valoriser aussi la Ligue 2, en accompagnant les clubs de Ligue 2 au niveau des droits télé pour qu'ils soient à 7,5 millions, 8 millions demain, en faisant une vraie Coupe de la Ligue, qui va aussi valoriser la Ligue 2, la Ligue 3 et tout le championnat professionnel. Eh bien, s'il y a ça, moi je me dis, je suis pas contre d'avoir une Ligue 1 à 18 clubs. À 18 clubs, pourquoi ? Parce que, un, là aussi, et je reviens dans mon idée de faire grandir tout le monde, on a fait grandir tout le monde. Je pense qu'une Ligue 1 à 18 clubs, ça va aider aussi les clubs de Ligue 1 et les plus forts à gagner demain des Coupes d'Europe. Mmh. Parce que forcément, il y aura une densité des clubs.
Vous voulez pas qu'on aille juste en quart de finale, c'est déjà bien. Hein.
Non, mais là, gagner, ouais, c'est... Il faut être ambitieux, Daniel.
Ouais.
Pour aller loin, il faut demander beaucoup pour avoir un petit peu, vous savez très bien. Donc moi, je serais prêt à dire, OK, pour une Ligue 1 à 18 clubs, pour aider les clubs à effectivement gagner des Coupes d'Europe, dans le cadre d'une redistribution comme ça. Et quand on enlève deux clubs de Ligue 1 déjà, parce que les télés, ils payent des droits télé. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'il y a deux matchs de plus ou quatre matchs de plus. Ouais. Parce que le championnat est attractif. Le championnat est encore plus attractif.
Non, mais on gagne des dates.
Voilà.
On gagne quatre dates. Bah là, avec 18 clubs, déjà, la Ligue. Non, mais avec les clubs de la Ligue, vous gagnez pas 5 dates. Parce que les clubs, ils rentrent en 8e. Ils rentrent pas en 16e aujourd'hui.
Mais t'as pas écouté le développement.
Une vision globale du football. Les clubs de National, les clubs de Ligue 2, ils rentrent au premier tour, fin début août. Donc, on gagne une date. Et donc là, on gagne 5 dates.
Maintenant qu'on. Alors là, on est.
Et on a une vision globale, un nouveau paysage.
On a bien compris la photographie générale.
Mais je pense que c'est aujourd'hui. Avec les nouveaux droits, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que si on fait une vraie réforme comme ça, on prépare déjà dans 4 ans, parce que dans 4 ans, l'idée, c'est pas de redescendre à 700 millions d'euros. Et c'est l'occasion de faire un big bang du foot. On y va et on valorise l'ensemble du foot français.
Est-ce que vous êtes écouté dans une société commerciale pour tout marketer, pour tout.
C'est un truc qu'on n'arrive pas à faire.
Les présidents qui travaillent ensemble, c'est un truc impossible chez nous. Alors qu'en Angleterre, ils le font.
C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des enjeux financiers importants, qu'on est bouffé par le quotidien, tous. Parce qu'effectivement, on est omnibulé, compte tenu des enjeux financiers, médiatiques aujourd'hui, par les résultats du week-end. Compliqué. Voilà. Et c'est vrai que le responsable, c'est le président. C'est à lui d'assumer la responsabilité de tout ça.
Est-ce que ce que vous nous décrivez là, vous en avez déjà parlé à des collègues présidents, à Didier Quillot, à la Fédé. Et puis, comment est-ce que vous êtes reçu?
Moi, je viens de revenir. Voilà. J'ai essayé d'aborder. J'en ai discuté avec quelques présidents. C'est compliqué parce que, déjà, effectivement, malheureusement, le timing n'est pas bon. Moi, j'arrive un peu tard. Les nouveaux droits, on les connaît depuis un an. Et ils ont entamé des démarches.
Ils ont déjà dépensé l'oseille.
Sur des éléments aujourd'hui, une organisation nouvelle. Mais moi, je me dis, par rapport, je dirais, à tous ces droits, je pense qu'on n'est pas à un mois près. On n'est pas à deux mois près. Parce que c'est l'avenir du foot sur les dizaines. Moi, je dirais, j'ai confiance dans tous mes collègues présidents pour qu'à un moment donné, on puisse échanger tranquillement, sans tabou. Et à un moment donné, dire démocratiquement, voilà, on bouge pas, on fait pas.
Ce qui est sûr, c'est que
le problème, c'est que c'est pas vraiment démocratique.
Reconstruire.
À vrai dire, les décisions, Daniel, à la Ligue, tu sais comment c'est. Il y a un collège de présidents qui décide, ouais, un peu pour tous les autres, quoi. Donc il y a aussi une réforme, un peu statutaire.
Qu'il faille changer, reconstruire, ça, notre club, pour moi, ne marche pas comme il faut. Ça c'est une certitude, mais. Convaincre les présidents là d'avancer dans le sens que vous préconisez, je sais pas, ça me paraît, ils sont tellement contents d'avoir décroché le jackpot là que je sais même pas s'ils sont en train de d'imaginer que il ne faut pas qu'on redescende à 700 millions dans 4 ans.
Bien sûr,
alors que c'est exactement ce qu'il faudrait avoir comme réflexion.
Oui, en gros, je vais le dire autrement, les présidents de club, ils ont une vision court-termiste et c'est chacun pour sa gueule.
Oui, c'est ça.
Non, mais
je dirais pas ça.
Et c'est un autre sujet. C'est-à-dire que nous, président, on a une très mauvaise image. D'accord. On nous aime pas. Alors ma femme dit, c'est normal parce que c'est vous qui êtes les porteurs de l'argent et l'argent, ceux qui aiment l'argent et le pouvoir.
C'est pas forcément vrai.
On n'aime pas trop. Et c'est vrai qu'on aime les entraîneurs, on aime les joueurs et que les présidents, c'est plus compliqué. Alors que je peux vous assurer que tous les présidents sont passionnés. Les présidents s'investissent énormément dans leur club et je pense que ils mériteraient d'avoir effectivement une autre image. Alors parfois c'est un peu notre faute, hein, faut l'assumer. Mais je pense que, comme le dit Roland Courbis, effectivement, la personne la plus importante d'un club, c'est le président. On le dit pas souvent. Je pense que la personne la plus importante dans le club, c'est effectivement le duo président-entraîneur. C'est le trio président-entraîneur-recruteur, parce que ça aussi c'est important. C'est le trio entraîneur-président-directeur de la formation.
Si je puis me permettre, il y a quand même quelques présidents qui ont une très bonne cote. Je veux dire, Olas à Lyon, c'est un héros. Marc Keller à Strasbourg, c'est un héros. C'est juste que les présidents, parfois, ils portent un discours d'entrepreneurs qui n'est pas forcément compris par les supporters.
Bien sûr. Voilà. Alors que ce sont aussi des passionnés et qu'ils aiment le foot et qui s'investissent énormément. Et donc, ils méritent, je pense, un petit peu de respect.
Pour tout vous dire, je trouve vos idées très intéressantes, effectivement. Parler avec des présidents qui avaient des idées pour changer à l'intérieur de leur club les choses ou qui avaient des visions globales dans le football français, je vous avoue que ça m'est arrivé plein de fois. Le mot d'attractivité, je l'ai entendu plein de fois. À chaque fois, ce que je répondais, c'était bosser autant que vous voulez sur le marketing, la refonte de machin, le ceci, le cela. Si en parallèle à ça et en priorité, vous ne faites pas une révolution sur la façon dont on pense le foot à la DTN, à tous les syndicats qui font ce qu'il se passe sur le terrain. Quand ce qui se passera sur le terrain changera, vous pourrez arriver, vendre des projets avec de l'oseille. Là, on sera attractif parce que ce qu'on ira voir, on aura envie de le voir mieux avec des nouvelles divisions, avec des nouvelles compétitions. Vous pourrez tout faire passer. Aujourd'hui, la façon dont on forme les joueurs, l'entraîneur,
c'est pas son domaine. Non, mais c'est pas le lot de tout le monde. C'est pas tous les formateurs qui sont comme tu le dis.
Si aujourd'hui, dans le football français, tu ne changes pas toute la DTN, la façon de voir le foot, la façon dans la formation des entraîneurs, tout ce qui se passe sur le terrain, l'attractivité.
C'est le Big Bang de Thierry Gomez, sauf que...
J'allais parler du foot et du jeu.
Monsieur Gomez, ce que je dis toujours, le Big Bang, je ne suis pas spécialiste de
géophysique.
C'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la Terre, quoi. Et ben là, c'est tout ce qui est le jeu et tout ce qui est le business. Tant que les deux vont pas se rencontrer comme ça, on n'arrivera à rien. Mais... Parce que moi, je répète, des discussions comme ça avec des présidents, j'en ai eu 1000. Il ne se passe jamais rien parce que sur le terrain, on s'emmerde. Ça, c'est la base. On va conclure là-dessus, qu'est-ce que vous répondez sur le jeu en Ligue 2, encore plus qu'en Ligue 1.
Non, mais
et en National, j'en sais rien, je regarde.
Alors, sur le jeu, c'est un vrai débat. Et notamment, moi, ce que je vois hors comme phrase, c'est quand on dit est-ce que vous préférez bien jouer et gagner ou mal jouer et perdre. C'est-à-dire dans le cadre d'une construction de projet, sur un match bien sûr on peut mal jouer et gagner.
Bien sûr, mais
dans le cadre d'un vrai projet de club sur le long terme, sur le moyen terme, c'est tellement évident que quand on joue bien, on gagne. C'est la première chose.
Deuxièmement, Daniel,
on a construit des stades, on fait évoluer l'infrastructure. Moi, la première chose que j'ai dit quand je suis arrivé au Monde, étant CFA2, j'ai dit ma première ambition, c'est de remplir le stade. Tout le monde m'a pris pour un fou. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à le remplir. Alors pas tout le temps. J'aimerais le remplir davantage. Mais je le répète, j'ai envie d'être ambitieux pour mon club. J'ai envie d'être ambitieux pour le football français. C'est une opportunité extraordinaire, ces nouveaux droits. C'est le moment, peut-être, effectivement, de s'asseoir, de donner quelques semaines, quelques mois de plus. Et puis, vous parlez du jeu. J'allais en parler.
On va conclure là-dessus.
Voilà,
alors.
C'est important. Je dirais, croyez pas que les présidents n'aiment pas parler foot. On aime le foot. Et quand vous dites que c'est pas votre domaine, je suis pas d'accord. Moi, je suis président du club.
Ah, moi, je vous dis pas que c'est pas votre domaine.
Que de la comptabilité et que, que des échecs.
Ah, ouais, non, mais moi, si j'étais président, je ferais super attention à ça. Le choix de l'entraîneur,
c'est le jeu, c'est le terrain. J'espère que. Et tous les présidents, c'est normal, s'intéressent. Et ça, faut pas interdire ça.
Donc quand je disais, c'est pas votre domaine, c'est à la Fédé, le DTN, la formation des coachs et des joueurs. Mais c'était ça. C'est pas que ça vous doit pas vous intéresser. Évidemment.
Daniel, j'ai été donc à trois plusieurs années. Là, je suis au Mans. C'est-à-dire que par exemple, moi, ce que je regrette, c'est que on n'a jamais eu une réunion tous ensemble, président, entraîneur, DTN, pour parler un peu football, pour parler formation, pour parler poste de formation.
DTN, mais c'est dingue. 80% des gens savent même pas qui c'est le DTN.
Non, mais ça, c'est dingue, ce que décrit Thierry Gomez.
Vous savez, vous l'entendez parler, vous l'entendez développer des programmes, des projets.
Il travaille beaucoup. Non, Daniel, faut connaître les dossiers.
Non, mais ce qui est pas d'intervention, pas dire ça. Il travaille.
L'image de la FFF, c'est Didier Deschamps, c'est les sexes.
Oui, voilà. Mais c'est tout ce qu'on met devant, mais derrière.
Mais non, Daniel, bien sûr que derrière,
on est obligé de s'arrêter. En tout cas, moi, ce que je retiens.
Déjà ?
C'est, malheureusement, ça passe vite. Hein. Moi, ce que je retiens, c'est vos propositions. Franchement, je pense que globalement, on y adhère.
Il n'y a pas un peu plus de temps ? Non, on a un programme chargé.
On peut continuer un peu, mais on réduit les drôles de l'âme. Alors, si vous êtes tous d'accord, on le fait.
J'aurais bien aimé parler de l'image du football.
Très bien. Alors, on revient ensemble dans quelques instants. Bougez pas. On continue avec vous et tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
L'After Foot est en train de refaire le football français, messieurs, dames, ce soir avec les propositions de Thierry Gomez, le président du Mans, de redessiner. Oui, mais non, mais c'est un changement, comme dirait Jonathan McCarty, de paradigme.
Bah si, moi je le suis, surtout de la partie.
Daniel Ariolo, Jérôme Montaigne.
Et moi, je
rêve. Non, toi, reste là.
Change le jeu, moi.
on va en parler un peu, quand même, du jeu.
Alors, c'est sûr que je ferai un ménage, hein, là.
On va conclure. Vous vouliez parler de l'image globale du foot?
Oui, parce que on parle de droit télé. Et je pense aussi qu'on a des grands stades aujourd'hui. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je joue devant 4000, 5000 personnes dans un stade de 25 000 places au Mans. Et ça, il faut s'y attacher. Et je pense que un aussi des critères qui est hyper important, c'est l'image. L'image du football français. Vous savez, je vais vous donner un chiffre que vous devez connaître. C'est que la dimension du foot n'a rien à voir avec la dimension du rugby. D'accord? Or, 75% des clubs de football de Ligue 1, hein, pas de Ligue 2, font moins de sponsoring que les clubs de top 14. Hein. Donc il y a une raison. C'est une question d'image. Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rugby. Mais il y a encore l'image dans le rugby en général qui est supérieure au football. Donc je pense qu'il faut s'attaquer aussi à l'image du football. Ça nous permettre aussi, là aussi, de gagner encore plus d'argent et d'améliorer les recettes, d'améliorer la biologie.
Qu'est-ce qu'est l'image aujourd'hui l'image. Et comment vous la corrigez ça m'intéresse. Ça.
L'image.
Pour le coup, là, je viens d'entendre. Là.
Daniel, il voulait partir, finalement, il reste.
Non.
Allez-y.
L'image. Déjà, on ne communique pas assez sur le rôle social du football. C'est hyper important. On est vraiment un acteur du bien-être dans une ville, un équilibre, et surtout en province. Moi, je suis au Mans. Je dirais, parler aux gens, disparition du club de football quand le club a disparu, ça a été un vide énorme. Aujourd'hui, le club revit, mais dans la dimension économique, dans la dimension de communication, dans une ville comme Le Mans, et dans la dimension sociale, je dirais, c'est énorme. On crée des emplois, directs, indirects, et puis tous ces supporters, on leur fait vivre des quotidiens. Quand on est revenu jouer au Mans Arena, il y avait des papilles qui venaient voir, disaient, Monsieur Gomez, je ne les connaissais pas. Ils disent, merci, pourquoi? Parce que vous rejouez au Marena, et grâce à vous, maintenant, j'ai une tribune, je suis à l'abri, tous les week-ends, tous les 15 jours, je peux venir voir mon
oui, enfin, ça, d'accord, mais vous non, communiquez mais, non, comment là-dessus? Qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas.
Mais bah, c'est dans le dialogue, dans la communication, dans les actions qu'on peut mettre en avant, il y a plein de choses, et je pense qu'on ne parle pas assez du rôle social, du football, et de l'équilibre. On est dans une société compliquée. Je pense que le football a une part très importante.
Donc là, il faut apaiser un peu la situation, parce qu'il y a
tous les clubs de foot amateurs qui sont dans les quartiers. Et qui trouve.
Il y a globalement une tension autour du foot, quand même. Problème en tribune, violence, etc.
Là, parce que aussi, on doit être, nous, exemplaires. Les clubs professionnels, parce qu'on a été laid, effectivement, il faut qu'on donne une bonne image. Et ça part de là aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un débat. Effectivement, on ne doit pas accepter déjà le. Ouais, quand on dit le en, cu, d'accord ? Tout le monde a compris. Très longtemps, en France, vous alliez dans un stade, vous étiez équipe visiteuse. Ça démarre déjà au speaker. Il disait le nom. Ouais, l'Euro 9, Daniel.
Ouais.
Et il attendait un blanc.
Ouais.
C'est Gilbert,
Gilbert. Voilà. Bon. Pauvre Jérôme. Jérôme, tout le monde était. Oui. Il faisait l'unanimité, donc il n'y a pas de souci.
Donc, il y a un mois, on a parlé de ça autour d'une affaire.
Oui, mais alors là, vous vous heurtez à quelque chose de compliqué.
Tout le monde était là pour dire c'est folklorique, il ne faut surtout pas changer. Voilà, Jérôme Montagne le premier. Donc ok. J'attends la suite.
Mais j'ai rien dit, moi. Non. Là, j'ai rien dit, j'écoute.
Ok, ouais. Vas-y.
Mais... Pourquoi tu veux pas m'attaquer? Il faut pas. Si on veut attaquer l'image, il y a eu un vrai débat sur justement les termes employés. On a été le premier match, nous, à Nancy, où le match s'est arrêté. L'arbitre a arrêté le match quelques minutes. Mais, par exemple, quand on aime le foot, quand on a envie de le voir grandir, quand on est exemplaire par rapport aux clubs qui sont dans les clubs du district, nous, c'est facile hein, de faire l'effort. On a les caméras, on a les arbitres, on a les forces de police et tout, etc. Hein, mais quand on pense à tout ça, je suis désolé, mais. Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé sur le match Lyon-Marseille, moi, si je vois mes joueurs qui, sur un corner, doivent être obligés d'être protégés par des boucliers, je vous assure, moi, je descends, je dis à mes joueurs de sortir.
Comment vous allez régler ça?
Et on n'a pas attendu. Mais, c'est toujours pareil, Daniel. Si on dit qu'on va rien régler,
bon, on fait rien. Alors, moi, je veux dire,
pourquoi je vous dis ça sur ce ton? Parce que nous, ça fait plus de 10 ans maintenant que, très franchement, on aborde tous ces thèmes-là. Sur l'image, sur ce qui se dit autour des matchs, sur ce que disent les présidents et sur la façon qu'ils ont de vouloir parler de l'image, mais qui une semaine après dans les faits ne font rien. Sur ce qui se passe dans les stades, si on met dehors ceux qui jettent les boulettes de papier et tout, on me dit ça va vider les stades. Il n'y a pas de public. Mais vous allez rééduquer les gens, vous allez faire.
Parce qu'il y a aussi l'effet inverse.
Mais Daniel ne part pas battu.
Il part battu.
Je pars pas battu, c'est parce qu'on ne fait pas de priorité sur ce que doit être le football.
Alors on va conclure. Moi j'ai juste une dernière chose à vous
soumettre. Allez voir comment on fait les Anglais et les Allemands. D'abord la révolution du jeu, puis le business.
Pour répondre à Daniel par
rapport. La réponse de Thierry, ensuite on conclura.
Effectivement, il est très abattu et très défaitiste.
Mais non.
Je viens parler des supporters. Vous voyez, là aussi il faut être cohérent. Je pense que sur les supporters, il faut être très sévère, avoir un suivi. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de suivi. Et là, il faut que les forces de l'ordre nous aident. Parce que nous, quand on porte plainte, on ne sait pas où la plainte va. Et c'est un vrai problème. Il faut que ce soit exemplaire, qu'on puisse communiquer derrière. Mais en revanche, il faut aider à rendre ces stades festifs. Et moi, je prends un exemple contraire. Mes supporters, au Mans, qui sont super, avaient préparé pour la Coupe de la Ligue Nice, comme dans les stades argentins, des papiers de toilette partout pour envoyer. 20 minutes avant, on nous interdit de jeter ça, soi-disant parce que ça peut retarder le match. Moi, je préfère retarder le match 5 minutes, mais qu'il y ait un superbe effet waouh avec les supporters qui lancent papier toilette, que des fois avoir 5 minutes d'arrêt à cause de la VAR. Si on peut avoir 5 minutes pour la VAR, on peut avoir 5 minutes pour un effet d'animation.
Je vous donne une piste, moi. Il y a un chantier prioritaire aussi, c'est faire venir les femmes au stade.
Oui, bien sûr.
Parce que ça, faisons. Et moi, j'aimerais bien avoir des vrais chiffres aujourd'hui de fréquentation de nos stades professionnels, très franchement. Si c'est du. Allez. 85-15, c'est meilleur des cas.
Et les familles, mais ça passe pas. Moins de violence, plus de familles, plus de femmes au stade. On fait
aujourd'hui, le foot se coupe de la moitié de la population.
Le foot féminin, le 29, Châteauroux, c'est Bruno Bini qui donne le coup d'envoi, ancien sélectionneur de l'équipe de France. Vous voyez, on invite tous les.
Ah ouais, vous avez choisi le bon, là, vu comme il s'est fait virer de l'équipe de France.
Non mais Daniel, arrête. Les initiatives sont bonnes.
Il fait du Daniel.
J'aimerais bien qu'il vienne au Mans
un jour, voir un petit peu notre club. Est-ce que vous allez dans les clubs, Daniel, voir un peu comment ça se passe de l'intérieur? Moi, je suis prêt à vous inviter. Venez une journée.
Daniel sort jamais du périph.
Va au Mans.
Venez au Mans. On y mange bien. Il y a du bon restaurant.
Arrêtez parce que vous allez m'agacer.
Daniel,
parce que faut venir. Faut venir dans les clubs.
Non mais Daniel, c'est que périph intérieur. Même extérieur, elle n'ose pas.
Bon, faut qu'on s'arrête là. Je veux dire, si tu veux faire la révolution du foot français, t'as pas besoin d'aller loin, hein. C'est boulevard de Grenelle. C'est là que ça se passe.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on suive tout ça.
La Ligue.
Et puis on fasse un point dans quelques semaines, dans quelques mois, on vous appellera et puis on verra si les choses avancent.
Qu'on veut changer le foot.
Stop, Daniel, on arrête.
Qui est un jeu sans passer par le jeu. Et en me parlant de tout le reste, ce que j'ai fait, je le répète, 150 fois avec à peu près tous les présidents de Ligue 1 et avec les présidents de Fédé et de Ligue et tout ça. Mais j'en ai des pages de réécriture, d'images, de changer les formules de compète, les machins, le truc. Et qu'on me parle de l'attractivité sans me parler de ce qui se passe sur le terrain, ce sont de belles intentions qui ne mèneront nulle part.
Alors Daniel, comme dit quelqu'un qui doit entendre l'émission, ne rien dire, c'est accepter et cautionner. Moi, je n'ai pas envie d'accepter et cautionner.
Bah moi, je dénonce la première chose essentielle,
Thierry,
qui est le jeu.
D'être venu.
Ensuite,
Daniel, c'est fini.
Toutes vos réformes, je vous suis.
Dans quelques instants, le foot européen. Merci Thierry d'être venu.
Et Daniel est invité au Mans.
Voilà.
Ouais, bah bon courage pour le faire venir.
Allez, à tout de suite, je le foot européen.
Et en fait, nous, on est des cons avec Gilbert. Nous, on n'est pas invités.
Non, non, mais ouais, mais moi, déjà, moi, je suis déjà allé au Mans.
Non, on n'est pas invités.
Bien sûr. Mais vous, je savais que vous êtes du foot. Parce que vous êtes du genre du foot.
Parce que si vous m'invitez, il faut prévoir la sécurité.
Non, mais tu sais, ils invitent tous, en fait, ils n'invitent jamais.
RMC, 21h30. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, Daniel Riolo, Jérôme Rotten. Attention, les drôles de la marive. Mais juste avant, j'aimerais rétablir une vérité importante. L'after se doit d'être précis. Daniel nous a dit tout à l'heure, le Big Bang, c'est deux trucs qui se cognent et ça fait la Terre. Eh bien non, monsieur Riolo. Le Big Bang, c'est pas deux trucs qui se cognent et ça fait la Terre. Le Big Bang, c'est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Voilà, monsieur.
Bah, c'est pas... J'ai pas synthétisé grossièrement ?
Non.
Un peu trop grossièrement, je pense.
Ah bah, mais en même temps, je suis vraiment pas spécialiste. Hein. Là, vraiment, c'est...
Les drôles de l'âme, jingle.
Les drôles.
Ce soir, c'est votre moment. La foire aux questions aux drôles de l'âme, c'est vous qui choisissez le programme.
Tu m'as coupé parce que j'allais annoncer mon Big Bang.
Lequel ?
Juste avant que les drôles de l'âme arrivent. Si tu veux vraiment le Big Bang pour
ah ouais, tu vas pas repartir avec 4 heures d'explication.
Non, pas 4 heures du tout. Pour épauler Thierry Gomez d'abord, vas-y. Les premières étapes avant de mettre ce qu'il veut en œuvre.
Donc, vous pouvez pas me faire ça il y a...
T'es allé trop vite. Tu m'as parlé du Big Bang, je t'ai laissé faire la définition. Donc c'est virer Le Graët, virer Hubert Fournier, virer Raymond Domenech. Déjà tu commences par ces trois-là. La Ligue ça va parce que je pense que les gens qui sont à la tête de la Ligue ont envie d'avancer dans le bon sens mais qu'ils ont du mal. Et c'est derrière tout ça, me nommer à la tête du football français. Et là, après, peut-être qu'on peut s'en sortir. Sinon, c'est mort.
Après ce grand moment de radio, ouais. Je vous propose d'accueillir Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir.
Et Polo le sait, parce que de toute façon, il fera partie des gens que je consulterai. Donc il soutient ma candidature.
Expertise, Polo.
Enfin, ma candidature, mon putsch, plutôt.
Ouais. Ah, attention, Polo ne soutiendra pas un dictateur.
Bon, dans ce cas-là...
Je n'ai jamais dit que j'étais un démocrate, mon cher Gilles.
Ouais. Non, vraiment. Je pense que Polo est avec moi, t'inquiète.
Polo, tu vas pas nous mettre en place un com interne ?
Ah, si. Fred Armel, lorsqu'on parle de champagne. Franchement, je pense que je veux pas tarder à le prendre avec moi.
Fred Armel, bonsoir.
Hola, Tico, je suis et resterai toujours un démocrate. Et je ne serai pas facilement soudoyé.
T'inquiète, tu te rincerais comme il faut.
Dans quelques instants, Julien Laurence nous rejoint. Dans quelques instants également, Simone Rovera nous rejoint. Julien est là. Salut, Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ce
salut
soir, Julien. C'est vous, au 32-16, qui posez vos questions aux drôles de l'âme. Les championnats reprennent ce week-end. On démarre avec le retour d'un historique de l'after. Karim, t'avais perdu notre numéro ou quoi ?
Non, ben là, j'ai un moment aussi, la famille.
Ça va, Karim ?
Ouais, oh, Karim. Famille, mon Fredo.
Oh mon Karim.
Karim, supporter historique du Barça. Le seul supporter du Barça qui s'appelle Karim et qui a l'accent ch'ti. Il est là dans l'after, Karim. Fred est à toi, tu peux lui poser ta question.
Alors Fredo, j'ai une question à poser par rapport à un transfert pour la saison prochaine, le remplaçant de Luis Suarez. Est-ce que tu as des rumeurs ? Abidal en a parlé. Est-ce que l'artiste Lautaro Martinez, elle est crédible au Barça ou pas ?
Écoute,
déjà l'année prochaine, Karim, c'est ouf ça quand même.
Non, mais c'est vrai. C'est
moi,
vrai.
Je suis pour, hein.
C'est vrai parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on ne prépare pas un mercato au mois de juin. On le sait très bien. La question de Karim est intelligente. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Lautaro Martinez au Barça. C'est vrai que Suarez a quand même beaucoup baissé son niveau. Voilà, on sait qu'Abidal, secrétaire technique, est sur le coup. Mais bon, à partir du moment où c'est le secret du Barça et qu'un directeur technique va pas annoncer, un secrétaire technique va pas annoncer plusieurs mois à l'avance son intérêt pour un joueur, on ne parle pour l'instant, cher ami, que de rumeurs. Mais ça, on sait très bien que Luis Suarez n'est plus assez performant et qu'il va falloir le remplacer d'un moment ou un autre. Je sais que beaucoup de gens, dont moi, aimeraient plutôt voir Griezmann en pointe, mais ça, c'est un autre débat.
Ça peut être une bonne nouvelle pour Griezmann, en fait, cette histoire, surtout.
Bah oui, c'est ça, parce qu'à un moment...
T'en penses quoi de Griezmann, là, Karim, pour l'instant, toi ?
Bah moi, pour le moment, bon, après, je trouve qu'il est très mal mis dans les... Il n'est pas mis dans les bonnes positions au Barça, parce que non, je le vois beaucoup sur le côté. Franchement, c'est pas du tout son poste. Et en plus, avec ce Barça-là, franchement, quand on dit... Pour moi, quand on dit arriver dans un nouveau Barça, dans une nouvelle équipe avec du jeu, je suis désolé, ce Barça-là, c'est pas le Barça de Guardiola, c'est pas l'ADN Barça, Franchement, par rapport à Simeone, je vois pas la différence entre Simeone et Valverde. Non, je,
quand même. Attends, là, t'es un peu dur quand même, hein, franchement.
Mais là, mais Valverde, honnêtement,
c'est vrai que c'est un Barça un peu moins offensif que du temps de Guardiola, mais enfin, il n'y a pas les mêmes talents non plus, quoi, tu vois.
Ouais, mais franchement, Fredo, la dernière fois, on a joué le Celta. Tu t'en souviens, le match du Celta?
Celta avait le ballon, hein.
Ouais, franchement, t'as Messi, franchement, il met un triplé contre le Celta. Mais quand tu, premier perdeur de jeu, tu vois la possession, 29% le Barça, 71% le Celta. Mais j'avais jamais vu ça au Camp Nou, franchement.
Non, tu as raison, et c'est la raison pour laquelle toi et beaucoup d'autres supporters du Barça ne supportent plus, justement, désolé pour la répétition, l'entraîneur Valverde, mais ça c'est le débat. Après, est-ce que c'est Valverde qui impose ça, ou est-ce qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a?
Karim, on était très content de te retrouver.
Ah ouais. Merci, moi ça fait plaisir.
Une petite info pour Karim, parce qu'il y a pas mal de questions, j'ai vu, on a oublié que Todibo est au Barça. Donc comme il y a une question et que Karim est supporter du club catalan, Todibo devrait être vendu au mercato d'hiver au Bayer Leverkusen.
Oui, mais apparemment, s'il marche bien, retour à la maison. Quoi. Option de rachat, apparemment.
Ah. Oui, mais enfin, oui.
Ça va lui permettre de jouer, quoi, en tout cas.
Ouais, parce que là, il a joué, je sais pas quoi, une minute, mais c'est quasiment rien.
Karim, tu vis en Espagne,
Karim?
Ah ouais.
Il habite à côté de Lille.
Ah, je me disais aussi.
Il habite à Roubaix, non?
Ouais, Lille.
Ah ouais, parce que je me disais, t'avais pas perdu ton accent, contrairement à Fred, qui l'a perdu, lui.
Eh, dis-moi, d'ailleurs, Karim, on est venu à Lille en septembre, on t'a pas vu, hein.
Bah, j'étais même pas au courant, honnêtement, de ça.
Bah, tu écoutes plus l'after ou quoi, Karim? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bah ouais, c'est pas normal.
Bah, t'es le seul, parce que tout le monde entier écoute l'after d'après les chiffres. Bah,
franchement, j'étais pas au courant de ça. Franchement, honnêtement. Bon. Sinon, je vais nous voir avec plaisir. Bah, quand vous revenez, y a pas de soucis, vous m'invitez sur le plateau ou quoi.
Ouais, bah, tu nous as raté, Karim. À la prochaine fois, sois plus attentif à l'after. Question pour Polo sur le hashtag FAQDDD, foireux question drôle de dame. Polo, j'aimerais que tu nous dises, c'est Uncho qui demande ça, ce que selon toi vaut Kai Havertz.
Bon, c'est considéré comme le futur grand du football allemand. Le petit problème qu'il a, il a fait une saison dernière assez extraordinaire au Bayer Leverkusen. Le problème, c'est que cette saison, il est un peu dans le dur. Donc, il a un peu de mal à confirmer. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde loue ses qualités techniques. C'est quelqu'un qui a un grand gabarit, 1m87 et tout ça. Il fait penser à Balak. C'est pas compliqué. Il a un volume de jeu assez extraordinaire. Il est très doué devant le but. Il a une frappe extraordinaire, etc. Il a une vision de jeu au-dessus de la moyenne pour un gamin. Voilà, maintenant le problème c'est qu'il faut confirmer et c'est un peu compliqué en ce moment et au Bayer Leverkusen et pour lui parce que il trouve pas sa place en équipe nationale, il est pas titulaire et vraiment honnêtement c'est pas bobo en ce moment. Mais encore une fois on est toujours en train de parler de ces gamins qui n'ont encore pas prouvé grand-chose sauf qu'ils ont du talent et si on pouvait les laisser grandir un petit peu pour qu'ils aient un petit peu une carrière, moi ça me ferait plaisir parce que j'en ai un peu marre de parler de gamins qu'on 17 ans, 18 ans, 19 ans, parce qu'il y en a plein qui se crachent et voilà. Je ne lui cède pas, évidemment.
Donc laissons-leur du temps. Voilà le message de Polo. Loïc, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Loïc, supporter de Tottenham, tu as Julien Laurence avec toi, il t'écoute.
Salut Loïc. Je voulais m'exprimer concernant le changement d'entraîneur. Pour moi, c'est une véritable catastrophe.
Ah, carrément.
Ah bah non, mais laisse tomber. Je veux dire, on a eu quand même un entraîneur, Mauricio Pochettino, qu'on a débarqué entre guillemets de Southampton, qui a fait évoluer l'équipe au fur et à mesure des années. Et d'ailleurs, au final, on a quand même fini devant Arsenal, on a fini avec une finale de Champions League. Et là, on va chercher quelqu'un qui est capable de pourrir un vestiaire tant par son attitude que par les réflexions qu'il fait en conférence de presse, qui est capable de pourrir le terrain par son système de non-jeu pour essayer d'empêcher l'adversaire de jouer, mais qui au final empêche sa propre équipe de jouer. Pour moi, c'est véritablement une catastrophe.
Alors, Julien, est-ce que tu rejoins Loïc ?
Alors c'est ce qu'on disait Loïc hein, ces deux derniers jours dans l'émission, il y a du pour et du contre pour Mourinho. Tu peux comprendre pourquoi Mourinho pour le côté vainqueur, le gars qui remporte des titres. Tu peux aussi, comme tu viens de le dire, aller dans l'autre sens en disant que c'est quelqu'un qui fait exploser ses clubs, c'est quelqu'un qui est toxique à partir d'un certain moment. Aujourd'hui, il nous a fait une petite démonstration de séduction pendant sa conférence de presse. Il était copain avec tout le monde, il nous a embrassés, il nous a enlacés, il a fait rire un peu tout le monde, il a fait des blagues, il savait exactement quoi dire, à quel moment, si tu veux, mais comme il le fait tout le temps, hein, quand il est revenu à Chelsea, quand il est arrivé à Chelsea la première fois, quand il est allé à Manchester United, au début, tout est toujours très beau, tout est toujours très bien, et puis après, ça se complique. On verra, il promet qu'il a appris de ses erreurs, qu'il fera d'autres erreurs, mais pas les mêmes, qu'il est humble, et que c'est pas le même Mourinho qu'avant.
Bah, bon, faut y croire. Voilà,
pour l'instant, faut lui donner une chance.
Qu'il est humble, non, sa personnalité, non. Sa personnalité,
sinon
elle
est comme il ça. Perd le, il perd.
Oui, non, mais par contre, là où je rejoins Julien, ça montre quand même à quel point ce mec est un passionné et que le terrain lui manquait. Parce que quand t'arrives dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire en chambrant, en déconnant, en rigolant avec tout le monde, même avec ses joueurs, tu vois, c'est des images là qui ont été tournées sur le terrain d'entraînement. Tu sens que voilà, c'est un plaisir de retrouver le rectangle vert. Et ça montre à quel point ce mec-là est un passionné, c'est un génie du foot. Alors après, il a eu des échecs, Manchester s'est mal fini et tout ça, mais bon, Manchester, où ils en sont aujourd'hui, tu dis que...
Moi, je peux comprendre Loïc, quand il sait ce qu'il avait, il a réussi ce qu'a eu Pochettino, et il se dit là, il y a quand même gros doute, quoi, voilà.
Donc, mais t'as un gros doute.
Mais c'est, il y a un gros doute avec n'importe qui, maintenant, il faut voir ce que ça va donner.
C'est la suite, c'est pas le même style que vous voulez mettre en place Pochettino, ça c'est sûr. C'est un autre style, mais il a su se réinventer plus d'une fois, José Mourinho.
Non, justement, il a eu du mal. Même quand il retourne à Chelsea, il resserre la vieille sauce qui prend un temps, qui ne prend pas. Mais les joueurs commençaient. Tu vois, c'est quand même un mec qui a été adulé, adoré par ses joueurs.
Ouais.
Franchement,
c'est vrai.
Et à partir, les mecs disaient tout le temps, notamment, je pense que le pic de sa carrière, en dehors de Porto, qui est une révélation formidable,
c'est l'Inter,
tous les joueurs disaient. On peut crever pour ce type, c'était formidable.
Il a fait jouer Eto'o latéral gauche.
Non, mais derrière, ouais, mais arrêtez avec cette légende, ça n'a duré qu'un match.
Mais non, Daniel.
Là, pour le coup, je le défends
mais
à 1000%.
Mais c'est pour aller dans ton sens.
Ils sont 10.
C'est pour aller dans ton sens.
Voilà.
C'est qu'il était capable de faire des...
Oui, mais ça, à la limite, c'est pas ça son exploit. Son exploit, c'est d'avoir fait justement le triplé cette année-là. C'est plus qu'il vit, il en a fait des exploits.
Bien sûr.
Moi, je répète, ça a été un entraîneur que j'ai, mais plus qu'admiré. Après, il a le droit d'être fatigué, d'être sur la... Oui. Après, il a basculé. Et ses effectifs, au bout d'un moment, ne le soutenaient plus à 100%. Et là, il a commencé à avoir souvent des embrouilles avec les joueurs dans le vestiaire, ce qui, lui, ne lui arrivait jamais. Mmh. Et ça, ce début, ça bascule un peu au Real. Et puis derrière, ça se remet. Et puis avant, mais jamais t'auras entendu, comme quand il va à Chelsea, même quand ça se passe bien, des hasards ou d'autres dire « Bon, ben on gagne, mais on se fait un peu chier. Ouais. » Bon, ben on gagne. Donc, petit à petit,
Daniel, où il est rattrapé. C'est pas que lui s'est embourgeoisé ou autre chose. Je sais pas. Je pense qu'il a gardé les mêmes stratégies. Le problème, c'est que le foot, les mentalités ont changé.
Ça, c'est vrai,
les joueurs
ont
changé.
C'est vrai.
Lui, peut-être, en effet, il a été dépassé par ça.
Mais c'est ça,
les joueurs, quand il était à l'Inter, quand il était dans les autres clubs, il a eu des grands joueurs. Il en a toujours eu, de toute façon. Quand tu gagnes ces compétitions-là, c'est que tu as des grands joueurs dans l'effectif. Sauf que peut-être qu'ils n'arrivaient pas, du moins, ils n'allaient pas jusqu'au bout, c'est-à-dire à dire certaines vérités. Et à fermer leur gueule et à ne pas rentrer en conflit avec lui.
On continue le débat dans quelques instants, les gars, avec les drôles de dames. Donc bougez pas. Le hashtag FAQDDD, foire aux questions drôles de dames, est là pour vous. Pour poser vos questions directes aux drôles de dames, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we. With annual reviews to keep you on our best possible tariff. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. Based on an annual review of activity for businesses with up to a £2 million turnover.